Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Sébastien Arsac, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour parler de L214.
C'est ça, tout à fait.
Tu es l'un des deux cofondateurs, parce que vous êtes deux cofondateurs, c'est ça ?
Même plusieurs, une petite dizaine au départ.
Ah oui, une petite dizaine, d'accord. De L214, donc, et nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler évidemment de L214, de votre action, de votre histoire et de vos objectifs, et pour parler d'un livre qui est sorti tout récemment, je crois, en septembre.
Oui, c'est ça, en septembre, début septembre.
Et qui s'intitule « Quand la fin ne justifie plus les moyens ». La fin, F-A-I-M.
Tout à fait.
Avec un sous-titre quand même, « En finir avec l'élevage intensif » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Ce livre que j'ai lu attentivement après m'être intéressée déjà à vos différents champs d'action, parce qu'en fait c'est assez large, hein, maintenant c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous expliquer en quelques mots, puisque ensuite on va développer, ce qu'est L214 ?
L214, c'est une association, c'est une ONG qui s'est donnée pour mission la défense ou la protection des animaux d'élevage. Les animaux d'élevage aujourd'hui, c'est si on s'intéresse à la question animale, en tout cas c'est le thème prioritaire. Hein, c'est souvent on parle, quand on pense protection animale, on pense abandon des chats, des chiens ou corrida ou expérimentation animale, mais plus de 99% des animaux aujourd'hui qui sont exploités par les humains le sont dans l'élevage. Donc L214, voilà, on s'est donné pour mission d'essayer d'informer, en tout cas déjà, en premier lieu, des conditions d'élevage, de transport, d'abattage des animaux, et puis aussi d'essayer de défendre une position qui consiste à dire que les animaux ne sont pas là des ressources alimentaires à notre disposition, et de participer au débat démocratique, de dire est-ce que on ne devrait pas remettre en cause l'utilisation des animaux. Ça veut dire d'arrêter de les faire naître par myriades, hein, parce qu'en France, on a plus d'un milliard d'animaux qui sont tués chaque année dans les abattoirs. De les transporter, de les élever, arrêter de les tuer.
D'animaux terrestres.
D'animaux terrestres,
oui.
Voilà.
Et on milliards... parle que du terrestre. En
c'est
plus.
Ça, c'est ça. Et on est à 67 milliards ou 70 milliards d'animaux terrestres au niveau mondial, et plus de 1000 milliards de poissons. Enfin, c'est une estimation, parce qu'on ne peut pas les décompter. Et puis souvent, on les compte par tonne, plutôt. Oui. Et on parle de stock pour les poissons, donc là, c'est un sujet colossal. Voilà, donc on existe depuis une dizaine d'années. Et on avait commencé avant avec des campagnes sur le foie gras, avec Stop Gavage. Voilà, on avait fait un peu nos premières armes sur ce thème-là.
Je crois que ça a une signification, oui. L214.
L214, effectivement, c'est un article du Code rural, qui est une codification d'une loi qui date de 1976, qui reconnaît pour la première fois, en fait, les animaux comme des êtres sensibles. Donc ce terme qui était accolé avec le mot animal, animal sensible, qui effectivement donne tout le sens à notre engagement. Sensible, ça veut dire que ces animaux-là, les animaux qu'on utilise dans les élevages, ont une capacité commune avec nous, qui sommes aussi des animaux, qui est de ressentir le plaisir, la souffrance, la douleur, et même au-delà de ça, on pense bien sûr à la douleur physique, mais aussi des souffrances psychologiques. Quand on pense par exemple à un veau qu'on retire à sa mère, à une vache laitière, on voit que le veau et la vache peuvent meugler pendant des jours, donc il y a un attachement qui s'est créé. Et donc on a brisé cet attachement, donc il y a aussi évidemment une souffrance psychologique. Et en éthologie, les scientifiques aujourd'hui découvrent justement un monde mental bien plus vaste, bien plus large que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire quand on commence à interroger les animaux sur leurs compétences psychiques, les relations qui tissent entre eux. Alors, les animaux, c'est vaste, hein, évidemment, depuis les animaux, les bactéries unicellulaires jusqu'aux mammifères qui ont des relations sociales très complexes. Bien sûr, c'est simplificateur de dire ça. Mais en tout cas, au moins, les animaux qu'on élève aujourd'hui, je pense aux bovins, aux cochons, aux oiseaux, aux poulets, voilà, ce sont des animaux qui, si on remonte au niveau de l'évolution, ont une structure mentale qui est très proche de la nôtre, ou en tout cas qui ont cette capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, avoir des relations. Et c'est vraiment ce mot sensible qui nous a accrochés. Donc on s'est dit, tiens, 214, pourquoi pas, c'est un titre qui peut être assez intrigant. Bon choix, mauvais choix, mais en tout cas, c'est celui qu'on a fait aujourd'hui et qui nous permet de remettre la définition de l'association au cœur de son action.
Aujourd'hui, l'association, c'est combien de personnes? Quelle est l'étendue depuis 10 ans du développement?
Oui, alors au départ,
de gens qui vous soutiennent et...
toute petite poignée il y a 10 ans en arrière, on a commencé vraiment à zéro. Les compteurs étaient à zéro, donc c'était des militants en fait qui se connaissaient, qui faisaient des petits collectifs à droite à gauche, qui avaient donc cette première expérience avec Stop Gavage, et puis petit à petit, au fur et à mesure de travailler sur le sujet, de s'intéresser à différentes filières, on a pris de l'ampleur et aujourd'hui on arrive avec une association qui a à peu près 70 salariés, qui représente, je ne sais pas si on regarde sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, il y a 700 personnes qui suivent, 700 000 personnes, pardon,
oui.
700 000 personnes qui suivent l'association, et on a un budget qui est...
Ça c'est 2010... que sur la France ou vous
que
rayonnez
sur, France,
sur d'autres
oui.
pays
non, on est sur la France, on travaille avec des associations internationales, mais voilà, on se concentre aujourd'hui sur la France, parce que c'est... la première puissance agricole en Europe, il y a énormément à faire. C'est un pays où on élève essentiellement les animaux dans les conditions d'élevage intensif. Voilà, et on a à peu près un budget de 4-5 millions d'euros collecte. Donc on a aujourd'hui, on doit avoir 36 000 membres adhérents à l'association. Alors c'est tout petit hein, quand on regarde la force de frappe des filières, évidemment des interprofessions, voilà, c'est une goutte d'eau. Mais en tout cas, il y a 10 ans, jamais on n'aurait pensé arriver à avoir ces ressources aujourd'hui, autant humaines que financières, qui nous permettent effectivement de travailler, d'enquêter. Et puis, on connaît L114 pour le travail d'image, d'enquête dans les élevages des abattoirs, mais on a plein d'autres choses qui sont du travail de fond, qui sont sur la question politique, la question de l'alimentation. Donc c'est beaucoup de boulot et qui demande effectivement des ressources. Et encore, je pense qu'on travaille qu'une petite partie de l'immensité de la problématique.
Alors aujourd'hui, vos enquêtes sont considérées comme fiables. Hein. Il y a une reconnaissance de tout le secteur de la presse, des organes de presse. Elles sont reprises régulièrement par les journaux télévisés, que ce soit sur TF1, France 2, France 3 ou les soirées Théma d'Arte. Elles sont aussi régulièrement utilisées dans la presse écrite nationale, relayée dans Le Monde, Le Parisien. Quels sont vos critères pour avoir gagné et gardé cette crédibilité aujourd'hui?
Alors c'est quelque chose qu'on a eu justement avec sur la question du foie gras au tout départ. On a vraiment, je pense que les cofondateurs de l'asso déjà sont des personnes qui viennent pour une partie d'entre eux d'une formation scientifique. Et du coup bon, il y a cette approche qui est une approche rationnelle,
rigoureuse.
On essaye de l'être parce que je pense qu'on peut pas se permettre en fait si on veut voir notre crédibilité essayer de compter dans le débat public. Il faut que notre approche soit rigoureuse. C'est-à-dire qu'évidemment, comme tout le monde, on a nos émotions. Et elles sont importantes. Et il faut justement entendre ces émotions. Hein, comme disait Yann Arthus-Bertrand, face à la souffrance, on a deux possibilités soit lever un mur d'indifférence, soit se laisser toucher, se laisser atteindre. Après, il faut interroger ses émotions. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le foie gras et le gavage. Déjà, on se rend sur place, on se rend sur le terrain. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas qu'une connaissance théorique. Notre expertise se base pas simplement sur nos recherches sur Internet, mais on va aussi voir ce qui se passe sur le terrain. Et ça nous permet de découvrir énormément de choses, justement de confronter ce qui est raconté par les filières, par la réglementation, et de voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le gavage. Et après, on regarde aussi les productions scientifiques qui n'en produit pas nous-mêmes. On regarde des synthèses qui ont été faites, bien sûr. Il y a énormément de choses qui sont produites par des experts vétérinaires au niveau de l'Union européenne. Et ce qui nous permet, quand on diffuse des images, par exemple, de salles de gavage, c'est ce qu'on a fait au départ dans le Gers, dans les Landes et tout ça, d'expliquer en quoi le gavage est préjudiciable aux animaux, quelles sont les études scientifiques qui ont permis de dire que c'était une maladie, c'était une stéatose hépatique, que les mortalités sont décuplées au moment du gavage, donc c'est bien qu'il y a un problème. Ça nous a permis aussi de confronter les positions de l'INRA, de l'Institut National de Recherche Agronomique, qui venait quelque part au secours du foie gras français, mais qui était aussi cofinancé par les filières. Donc ça nous a permis, on a fait un bouquin de plus de 200 pages sur cette question de l'expertise scientifique vétérinaire en France. Donc cette démarche-là, on s'est rendu compte, déjà c'est un peu dans notre ADN au départ, enfin c'est notre façon de penser, et on s'est aperçu aussi que tout en ayant une approche, une position abolitionniste. On milite pour ne plus utiliser les animaux comme ressources alimentaires, donc là on est loin des pratiques de la culture française aujourd'hui, tout en ayant cette position donc, qui peut être perçue comme très radicale. On voit que si on apporte de l'information, du contenu et qu'on l'argumente, on est dans une démocratie où on peut parler de ça, on peut échanger sur ce sujet et que avec le contenu, la presse, les médias sont intéressés par l'apport de ce travail-là.
Et qui, même si en face vous avez des gens qui n'ont pas forcément envie de partager votre opinion, mais au moins ça permet d'entamer des réflexions.
Voilà, et il y a une reconnaissance aussi, il y a une reconnaissance. Voilà. On n'est pas en boucle en disant.
Une approche différente de celle communément admise.
Voilà. On n'est pas en boucle comme un mantra de dire c'est pas bien de tuer les animaux.
Oui, d'ailleurs, si vous étiez en boucle, je ne vous aurais pas tendu le micro.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas du tout pour rien aussi. C'est chacun dans son parcours à sa propre réflexion. Et nous, c'est d'essayer justement de. On a une société ici et maintenant qui a des relations avec les animaux qui sont ce qu'elles sont. Et on essaye d'interroger ces relations, de dire est-ce que c'est juste de faire ce qu'on fait sur les animaux, est-ce qu'il n'y a pas un droit d'inventaire par rapport à nos pratiques traditionnelles, culturelles. Comme toute société et toute relation, que ce soit sur les relations intra-humaines aussi, on a ce travail à faire et à un moment donné, il faut essayer, alors il faut trouver le bon endroit. Si on est trop consensuel, c'est qu'on ne fait pas avancer grand-chose. Et si on est trop loin, si on va trop loin, on n'est pas audible non plus.
Voilà, les gens se ferment en face et ça rentre pas.
Exactement. Donc il faut arriver à mettre un petit peu un petit déséquilibre dans nos convictions personnelles. Et moi, le premier, hein, je suis pas né ni végan, ni végétarien et ni militant pour les animaux. Je le suis devenu et il y a plein de comportements, de choses à remettre en cause. Et tant mieux, je suis très content qu'il y ait des ONG qui fassent ce boulot, que ce soit dans les questions environnementales, qu'il y ait des lanceurs d'alerte sur tous les sujets. Et nous, on essaye de faire ça sur la question animale, quoi. Et il ne s'agit pas de dire on a raison et nous, on est plus vertueux que tout le monde, mais c'est essayer de dire c'est un problème politique, c'est un problème de société qu'on a avec dans nos relations avec les animaux. Et donc, c'est pas l'idée de pointer du doigt un éleveur en particulier, une chose comme ça, mais c'est quelque chose qu'on doit nous questionner parce que là, il y a une vraie question éthique derrière ces relations-là. Et aujourd'hui, les animaux, c'est surtout dans nos assiettes qu'on les retrouve. Et voilà, c'est quelque chose qui, en plus, quand on creuse et qu'on voit tout ce que ça implique en amont, qui pose vraiment question.
Et en plus, enfin, ce que je trouve intéressant actuellement, c'est qu'on voit bien que ce soit les ONG qui sont sur les questions animales, de nos rapports avec les animaux, notre façon de les traiter ou tout ça, ou que ce soit par rapport à l'environnement, donc le vivant, non pas au niveau animal, mais au niveau des végétaux, de la flore, de la biodiversité, de tout ça. En fait, on voit en ce moment que tout le monde se rejoint. Toutes ces préoccupations-là et les dégâts que l'on observe aujourd'hui qui remettent en cause même maintenant la survie de l'humanité, on voit bien qu'il y a à la racine au départ des choses communes, c'est-à-dire qu'à un moment, on a complètement méprisé le vivant pour des intérêts économiques en général.
Oui, tout à fait.
Dans l'élevage intensif, dans tout ce que j'ai regardé, de tout ce que vous avez produit et tout ce qui est dans le livre qui est très argumenté, très sourcé, on voit aussi que c'est une problématique récurrente. Pour les animaux, vous parliez là tout à l'heure de souffrance. Pour les végétaux, pour l'instant, on n'a pas de preuves que des végétaux peuvent souffrir au sens sensible, on l'entend, ressentir. Mais on voit bien que les dégâts sont les mêmes, en fait, au bout d'un moment, à force de nier tout ça et de vouloir s'approprier toutes ces ressources et au détriment des écosystèmes, au détriment de tout ce fonctionnement, finalement, c'est nous qui en... Enfin, c'est nous les premiers, parce qu'il y a d'autres espèces qui sont en train aussi de décliner, mais qui s'en remettront peut-être, ou peut-être que... Mais au niveau de l'humanité, en tout cas, on fonce dans le mur, et comme si de rien n'était.
Il faut reconnaître que l'espèce humaine a une place à part sur la planète, parce qu'on domine tout, jusqu'au plus profond des océans.
Sauf cette idée de domination.
Oui, c'est ça, et du coup, mais on le fait parce qu'on en a les capacités. Il se trouve que c'est l'espèce humaine, ça aurait pu être une autre espèce. Hein, ça, c'est l'évolution qui fait que c'est cette espèce-là qui a pris le lead, le contrôle total, avec une vision souvent à court terme, mais il y a aussi du très bon. Et l'idée, c'est pas de renoncer à ce. Enfin, c'est une situation de fait. Et c'est, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ce pouvoir qu'on a, de cette capacité à résoudre des problèmes. Voilà, c'est, l'idée, c'est pas non plus de rejeter non plus l'humanité, mais c'est de se rendre compte que aujourd'hui, on pourrait faire d'autres choses. Voilà, on peut faire d'autres choses.
Il faut qu'elle évolue l'humanité un petit peu.
Oui, c'est ça. Et on le voit même dans les relations intra-humaines. De toute façon, des groupes humains ont pris aussi la domination sur d'autres. Et tout ça a évolué. On voit que cette sphère d'égalité, aujourd'hui, on a mis les droits humains dedans. Et ça allait pas de soi, d'autres époques. Aujourd'hui, ça va de soi, quelque part, même si dans la pratique, on est loin d'avoir atteint cette égalité-là.
Mais on l'a formulée, disons.
Au moins, on l'a formulée, elle est là et on avance. Hein. Je pense qu'il y a, il y a des droits qui avancent. Alors, ça dépend les coins de la planète. Et puis, de la conscience qu'on a des conséquences de nos actes aussi, parce qu'on n'est pas, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe quand on vit ici dans les pays occidentaux. On n'a pas tout à fait conscience que nos modes de production et de consommation ont des conséquences dans d'autres parties de la planète. Je pense qu'on se rend compte de choses aujourd'hui, parce qu'en plus, l'information circule, on n'a jamais eu accès à autant de
sources. Oui, ça, c'est un
sources.
Des points positifs.
Avec la question animale, en fait, effectivement, il y a une espèce de convergence sur d'autres problématiques, sur la question environnementale, parce qu'effectivement, on se rend compte que cette surconsommation de produits animaux, elle a des conséquences sur les ressources alimentaires. On le voit, on l'a vu cet été avec les forêts amazoniennes, qui sont au départ brûlées pour faire de la viande bovine. Et puis, une fois qu'on a fait la production de viande bovine, ils sont transformés en champs de soja. La France étant le premier pays importateur de soja du Brésil, soja OGM au passage. Si on était conséquent, on pourrait se poser aussi des questions là-dessus. Mais tout ça, oui, il y a une espèce de convergence. Mais aussi, on voit aussi d'autres choses à l'œuvre quand on commence à creuser ça. C'est le pouvoir des lobbies, par exemple, qui est évidemment très très fort. Ici en France, c'est absolument... Alors en ce moment, il y a cette mode de l'agribashing là, qui est pilotée par la FNSEA, qui est un des syndicats agricoles les plus puissants qui co-gère l'agriculture aujourd'hui en France avec le gouvernement depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui s'est installé, qui défend un modèle productiviste. Et ça, on le retrouve sur plein d'autres problématiques, la question des lobbies, la question des conséquences climatiques. Et, c'est vraiment, à un moment donné, si on regarde la question de l'alimentation, en tout cas, que ce soit autant pour les végétaux que pour les animaux, il y a eu dans les années 70 une volonté qui était peut-être quelque chose de positif au départ, c'est-à-dire on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un traumatisme avec les étiquettes de rationnement, etc. On voulait que l'Europe devienne autosuffisante dans sa production. Et on a développé, au départ c'est la révolution verte, donc c'est pas venu de l'Europe, c'est les États-Unis, l'Amérique, ça a été testé en Inde.
C'est bien catastrophique aussi d'ailleurs.
Voilà, c'est ça tout à fait. Alors au départ c'était peut-être lutter contre la famine et tout ça, mais alors on a eu la convergence de trois choses. Il y a eu la mécanisation, il y a eu l'industrie chimique et la question de la génétique. Et ces trois facteurs ont fait qu'on a explosé au niveau des rendements, qui font que tout s'est intensifié, que ce soit, ça s'est intensifié encore plus fort sur les végétaux. Mais là, les animaux, on est en plus sur des êtres directement sensibles, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a un consensus, il n'y a pas de remise en cause là-dessus. Et où mécanisation, les progrès génétiques ont permis d'entasser des animaux dans des bâtiments. Ça n'a pas été l'invention de l'exploitation animale, mais ça a été une période où on a poussé les manettes au maximum. Et ce qui fait qu'on a, en fait, même si on commence à remettre en cause notre rapport sur les animaux, qu'il n'y a jamais eu autant de travaux philosophiques, universitaires, de questions posées sur la question de nos rapports avec les autres animaux, jamais on a autant exploité d'animaux qu'aujourd'hui. Parce que simplement, la question démographique, de consommation de produits animaux. Et si on n'avait pas eu la chimie, par exemple, les antibiotiques, les médicaments, les anti-infectieux, on ne pourrait pas entasser les animaux. Parce que dès que vous aurez un virus, un germe, une bactérie, vous avez trop forte mortalité. Donc on a eu besoin de cette chimie pour entasser les animaux dans une telle promiscuité. Et la génétique fait qu'aujourd'hui, on a des animaux qui grandissent à tout à l'heure. Par exemple, si on prend aujourd'hui les poulets, c'est 7 animaux sur 10 en France qui sont tués sont des poulets. Donc c'est plus de 800 millions d'animaux sont élevés chaque année. Les poulets d'élevage qu'on a aujourd'hui sont des animaux qui ont été sélectionnés pour grandir très très vite, pour faire du muscle, parce qu'on veut faire de la chair. Du coup, ce sont des animaux qui sont boiteux à plus de 30%. Ce sont des animaux qui ont des problèmes d'acide, de problèmes de pulmonaires, des problèmes cardiaques. Et quand on regarde en 1950 et aujourd'hui, sur les poulets d'élevage, aujourd'hui, ils grandissent deux fois plus vite qu'en 1950 pour avoir le même poids d'abattage. Et on regarde ça, c'est la même chose pour les vaches laitières. Aujourd'hui, on a fait des vaches laitières qui doivent pisser du lait, littéralement. Donc, on arrive en moyenne, c'est à peu près 30 litres par jour. Il y a des vaches qui montent à 60 litres facilement, assez fréquemment, par jour, alors qu'un veau, c'est entre 5 et 10 litres pour ses besoins. Et c'est pareil, ça aussi, c'est la sélection génétique. Donc, je crois qu'il y a des scientifiques qui disaient que la production de lait journalière pour une vache, ça correspond à une dépense énergétique de courir un marathon chaque jour. Donc, c'est des vaches qui sont épuisées au bout de quelques années, qui pourraient vivre 20 ans et plus, et qui, au bout de 4-5 ans, sont envoyées à l'abattoir à la réforme parce qu'elles sont totalement épuisées. Et toutes les filières, comme ça, c'est les problèmes de la génétique. Donc, la chimie, la génétique, la mécanisation, évidemment. Là, aujourd'hui, on a, si on regarde sur les éleveurs, aujourd'hui, un éleveur peut s'occuper de 60 000 poules pondeuses en élevage intensif, alors qu'en élevage plein air, c'est 6 ou 7 000 poules pondeuses. En 1950, je crois qu'on avait un travailleur en population active sur 5 était dans le monde agricole. En début des années 2000, c'est 1 sur 22. Et là, aujourd'hui, on est 1 sur 33. Donc, on a eu une hémorragie de population de travailleurs actifs dans ce domaine-là, une intensification avec des rendements qui ont explosé. Voilà la situation aujourd'hui de l'agriculture en France.
Alors, dans ce livre, vous faites le point et vous décrivez donc avec de nombreux chiffres et de nombreux détails dont vous donnez toutes les sources en fin de livre. Donc, il y a trois grandes parties. Hein. Comment nous en sommes arrivés là? La réalité de l'élevage intensif et les raisons d'en sortir. Il y a aussi vos propositions après. Depuis 2008, vous avez rendu public, je crois, plus de 50 enquêtes et des vidéos qui révèle les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux en France. Ces révélations qui nous ont fait découvrir l'aspect cruel et ignoble de ce que nous faisons endurer à ces animaux pour notre consommation. Donc ça a fait beaucoup de bruit, hein, toutes vos enquêtes et vos vidéos, ça a fait sensation même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert cet envers du décor ? En fait, on a tous été atterrés lorsque ces premières vidéos sont sorties. Enfin, on s'est dit, mais comment se fait-il qu'on ne nous a jamais montré ça, qu'on ne le sait pas, que c'est caché ? On comprend que ce soit caché, mais... Oui. Comment se fait-il que personne, aucun journaliste, personne n'était jamais allé, ou très peu avant vous, je ne sais pas, chercher ça? Donc comment vous êtes lancé là-dedans?
Il y a vraiment un grand écart entre clairement ce qu'on imagine et puis la réalité du terrain, parce qu'on a une vision très idyllique de l'agriculture française,
oui,
on a tous des grands-parents.
Comme ça aussi, avec des belles images sur les
On nous vend ça, c'est ça. Et puis la France, c'est quand même... Quand on se balade en France, on voit encore quelques vaches et des seuls qui presque encore un peu accès au pâturage, et de moins en moins, parce qu'au fur et à mesure que les troupeaux grandissent, on ne peut plus les faire sortir. La première chose, c'est quand on a commencé à... Au départ, on avait, je pense, les militants de L214 avaient une position assez idéologique, c'est-à-dire qu'on avait lu La libération animale de Peter Singer, donc qui est un philosophe australien qui a théorisé un peu cette question de la sphère d'égalité, justement. Quels étaient les intérêts qu'on devait prendre en compte pour se préoccuper du sort des individus? Et il en est arrivé au fait que c'était la capacité, justement, à ressentir le plaisir à la souffrance, la sensibilité qui était un critère. Donc on avait cette position assez idéologique. Et puis à un moment donné, il y a une association américaine qui nous a contactés et qui travaillait sur la question du foie gras. On a vu encore là dernièrement à New York une interdiction d'ailleurs de la vente et de la production de foie gras. Et il se trouve que la France fait 75% de la production mondiale de foie gras. Donc ils sont adressés à nous et puis ils sont venus en France et on est parti avec eux pour visiter des fermes d'élevage. Et là on est allé dans le Gers, dans les Landes, donc vraiment au cœur de la production de foie gras en France, dans le sud-ouest. Et moi j'avais pris le caméscope familial avec moi, donc là je vous parle 2003, hein. Le petit caméscope Sony que j'avais, voilà vraiment le caméscope familial qu'on sort pour les mariages et les grands événements. Et là on a demandé à des éleveurs s'ils pouvaient nous faire visiter, et nous on était quelque part des accompagnateurs de cette association américaine. Et là, la première fois que je suis rentré dans une salle de gavage, une vraie salle de gavage, hein, pas celle qu'on fait visiter aux touristes, c'était déjà 87% de la production française, et c'était une salle avec 1000 canards enfermés dans des cages individuelles, c'est-à-dire que faut imaginer ces cages de la taille d'une boîte à chaussures à peu près, où il y a juste la tête qui ressort, avec une machine, donc c'est une gaveuse qui gave les canards avec une pompe pneumatique. Donc déjà, on n'était plus de gaver des oies, d'ailleurs on gavait des canards, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à enfermer les oies dans ces cages, donc on est passé sur une autre espèce pour faire du foie gras. Donc une production très industrialisée, et voilà. Et donc on a fait ces premières images comme ça, simplement en allant toquer aux portes des élevages. Quoi. Je me souviens la première fois quand on est rentré à l'hôtel et que j'ai re-regardé ces images c'était des cassettes à bande. je me suis dit, mais quand on va montrer ces images aux Français, il n'y en avait pas, bizarrement. Il y avait des images qui étaient faites en Belgique, parce qu'il y a une petite production en Belgique, aux États-Unis. Il n'y avait pas d'images, bizarrement, faites en France, parce qu'il n'y avait pas d'association qui s'était penchée sur ce thème-là. Les Anglo-Saxons ont de l'avance sur nous, sur ces questions-là. Et quand j'ai vu les images, j'ai dit, quand on va les montrer, c'en est fini, du gavage. Donc, j'étais très naïf à l'époque. J'ai un peu perdu de cette naïveté. Mais on s'est rendu compte quand même que les images... avait une force, c'est un voile de vérité qui est soulevé, on ne fait pas de reconstitution, on n'a pas un studio ici.
Oui, voilà. Vous ne racontez pas ce qui se passe, vous le montrez.
Voilà, on montre. Alors, on est dans un moment où l'image est très accessible, déjà. On peut diffuser à moindre coût des images au plus grand nombre. Donc ça, c'est un vrai avantage aujourd'hui d'Internet. Ouais, on est au début des conséquences que va avoir toute cette capacité à diffuser de l'information. Et du coup, on s'est rendu compte que cette articulation entre le travail scientifique et le travail de terrain nous ouvrait des portes et permettait d'ouvrir un débat. Et qu'on s'est dit, c'est... entre guillemets, la méthode, quoi. C'est aller sur le terrain, et c'est ce qu'on a fait après sur les élevages de lapins, après beaucoup, où en plus on découvre des choses, hein, on découvre des choses qui ne sont pas écrites, comme que les nids sont équilibrés, qu'on assomme la pro au bord des caisses dans les élevages, enfin plein de choses comme ça, qu'on découvre malgré nous, juste en discutant avec les éleveurs, et effectivement il y a une telle opacité que c'est des images qui sont difficiles à faire, ou de plus en plus compliquées à faire.
Alors comme vous le décrivez, il ne s'agit pas de taper sur les agriculteurs qui sont eux-mêmes en grande difficulté, hein, et qui Absolument. Ont été en fait encouragés et entraînés depuis le milieu du XXe siècle dans cette voie de l'agriculture et de l'élevage intensif, oui. Mais il s'agit plutôt de faire le point sur les dégâts aujourd'hui bien identifiés de ces modes de production qui ruinent la terre, qui ruinent l'environnement, qui ruinent la biodiversité et par conséquent l'humanité. Donc il ne s'agit pas de faire de l'agribashing, on le reprécise puisqu'il faut le préciser là en ce moment, mais en préparant l'interview il y a quelque temps de Marie-Monique Robin, je l'entends dans une émission sur France Culture, et en fait dans cette interview elle parlait du fait que après la guerre, au moment où donc il y avait cette famine et où il fallait développer l'agriculture intensive pour à ce moment-là régler ce problème de la faim et produire plus et tout ça, l'État, les gouvernements ont su à ce moment-là mettre des grands plans d'action et d'aide financiers, politiques, économiques à tous ces agriculteurs et ces éleveurs pour les aider à faire la transition. Et aujourd'hui, la question que je les entendais se poser dans cette émission et que je me pose aussi et que je trouve que votre livre pose aussi, c'est que quand on parle de tous ces dégâts aujourd'hui, c'est pas pour faire de l'agri-bashing, mais plutôt parce qu'on se demande pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de plan de grande ampleur pour encourager, accompagner et permettre de sortir de ces modes de production. Or, pour l'instant, comme vous l'écrivez dans ce livre, notre système agricole est à bout de souffle, mais au lieu de nous interroger sur sa viabilité, nous nous entêtons dans cette impasse. Et qu'est-ce qui bloque ?
C'est une aberration économique en plus. Oui. C'est une aberration totale. Les éleveurs en sont les premières victimes.
Voilà.
Personne que ce soit au niveau santé, en fait, d'ailleurs, au niveau financier, économique. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde les élevages porcins, les éleveurs porcins, en moyenne, ont plus de 400 000 euros d'endettement. Imaginez, 400 000 euros d'endettement. Enfin, c'est incroyable. Et tout ça fonctionne qu'avec des subventions et de l'argent public. Mais je pense qu'en fait, l'élevage aujourd'hui en France, effectivement, on a décidé dans les années 60, c'était Edgar Pisani. Du coup, il disait, il faut que la Bretagne se pense comme un immense atelier de fabrication de viande et de lait. Et du coup, ils y sont vraiment arrivés. Il y a une loi d'orientation agricole à l'époque qui ont poussé dans cette direction et ça a eu lieu, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une force d'inertie, des choses qui sont installées et des intérêts privés qui passent devant l'intérêt général, ça c'est sûr. L'agroalimentaire aujourd'hui, parce que ces éleveurs-là qui sont pris entre le marteau et l'enclume, aujourd'hui ils n'ont aucune marge de manœuvre. Les élevages porcins sont totalement intégrés, c'est-à-dire que toutes les filières de toute façon sont intégrées, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'un gros groupe, d'un espèce de groupement. Alors au départ c'est des coopératives, mais qui sont complètement dévoyées. L'organisation de départ, c'est plus des coopératives avec des coopérateurs paysans, mais ça devient des industries agroalimentaires simplement. Ils sont accompagnés par les vétérinaires du groupe, les animaux sont fournis par le groupe, l'alimentation est fournie par le groupe, etc. Ils ont un programme à suivre. En fait, ils sont devenus des salariés de l'agroalimentaire complètement. Juste que ce qu'ils mettent à leur disposition, c'est leur force de travail et ils s'endettent pour acheter des grands bâtiments et beaucoup de machines qui sont très très coûteuses. Et en fait, si ça perdure aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui trouvent l'intérêt et qui ont du pouvoir, simplement. C'est bête comme chou, mais les éleveurs, les agriculteurs, aujourd'hui, font vivre énormément de gens.
Mais ceux qui trouvent l'intérêt, c'est donc au-dessus de tout... C'est ceux qui fédèrent ces plus petits, là qui...
C'est les laboratoires, c'est les gens qui fabriquent des machines, l'agroalimentaire derrière, c'est la grande distribution. Enfin, tout le monde se sert, en fait, au passage. Presque la moitié du budget de l'Union européenne, c'est la PAC, est investie pour essayer de faire perdurer, en fait, les éleveurs. Je crois que c'est les éleveurs de bovins à l'étang, donc c'est le fond de la viande, ils ont plus de 40 000 euros par an, de subvention. Donc on n'est pas loin de 4 000 euros par mois de subvention. C'est-à-dire que sans ces subventions, il n'y a plus d'éleveurs à l'étang aujourd'hui en France. Et on est à plus de 30 000 euros en moyenne sur les élevages. Donc c'est un système qui marche sur la tête complètement et qui est sous perfusion, totalement, vraiment sous perfusion. Et je pense qu'il persiste aujourd'hui, quand vous avez justement les manifestations qui sont organisées par la FNSEA, c'est que la FNSEA est installée aujourd'hui en France, c'est elle qui contrôle les chambres d'agriculture. Quand il y a des élections, ils ont la majorité, mais il y a un mode d'élection qui fait qu'avoir la majorité, c'est rafler tous les postes aujourd'hui, donc il n'y a aucune... contre-pouvoir aujourd'hui dans le monde agricole. Et c'est parce que, historiquement, la FNSEA est installée, c'est-à-dire qu'elle siège dans les SAFER. Par exemple, c'est tous ces organismes qui va distribuer les terres ou qui va donner les autorisations. Donc, en fait, un éleveur aujourd'hui a plus intérêt à être syndiqué à la FNSEA, mais simplement parce que les éleveurs ont peur ou s'ils ne le sont pas, en fait, ça va à l'encontre de leurs propres intérêts. Quoi. Donc, il y a eu une espèce de situation de monopole de ce syndicat qui a une vision totalement productiviste aujourd'hui de l'agriculture et qui essaye par tous les moyens, avec les crises successives qui se suivent, de maintenir ce système. Voilà, simplement. Vous avez aujourd'hui Christiane Lambert qui est à la tête, avant c'était Xavier Bellin. Xavier Bellin était quand même PDG du groupe Avril, Sophie Protéol, qui est une énorme industrie agroalimentaire avec Sanders et tout ça, qui était aussi alors président du groupe du syndicat agricole et à la fois à la tête d'une énorme industrie agroalimentaire. C'est une aberration totale. C'est comme si vous avez dans une entreprise de fabrication d'une chaîne de voitures, quelqu'un qui défend les employés et qui est à la fois dans la direction. Quoi. Enfin, ça paraîtrait complètement fou, mais c'est la situation de l'agriculture aujourd'hui. Le mari de Christiane Lambert est siège à Terena, donc, qui est un groupe agroalimentaire, exactement. Donc on est exactement dans la même situation, on n'est pas sorti. Et aujourd'hui, je pense que il est là le problème. Il y a des verrous à faire sauter et que pour le moment, je pense qu'ils vont sauter. On entend commencer à percevoir la grogne quand même au niveau des éleveurs. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se soulever par rapport à tout ça, mais il y a une volonté publique aujourd'hui qui n'est pas là pour changer de modèle. On voit au contraire que Didier Guillaume, l'actuel ministre de l'Agriculture, qui lui-même rentre les deux pieds dedans sur cette question de l'agribashing, c'est-à-dire que dès qu'on remet en cause la question de notre modèle agricole, que ce soit n'importe quel pour l'utilisation des pesticides jusqu'à la condition d'élevage des animaux, il y a une levée de bouclier qui se fait, les associations animalistes aussi ont une tentative aujourd'hui de criminaliser le mouvement totalement. Aujourd'hui, c'est une sale période, en tout cas. Je pense qu'on est une période de transition, mais comme toutes les périodes de transition, elles peuvent être très perturbantes, très violentes et destructrices pour les gens qui sont pris dans cette tourmente-là. Mais je pense que c'est vraiment faire la technique de l'Autriche, se mettre la tête dans le sable aujourd'hui, ou avoir une vision à très très court terme, que de continuer à faire perdurer ce système-là.
Il y a une tribune, il y a quelques jours, avec José Bové et pas mal d'autres agriculteurs, je crois que c'était dans Libération.
Oui.
Pour justement remettre un petit peu les points sur les i, sur le fait de repréciser qu'il ne s'agit pas de faire de l'agribashing, mais de remettre un système en question.
Absolument.
Et c'est pas sur les agriculteurs, mais plutôt sur les politiques qui ne jouent pas leur rôle.
Tout à fait. Et là, quand la FNSEA communique, elle dit les agriculteurs, mais on voit, c'est pas monolithique. Enfin, tout ça,
oui.
On voit effectivement la Confédération paysanne a un discours qui est tout autre, qui justement se pose la question sur l'utilisation des pesticides, sur les conditions d'élevage des animaux, à militer via Campesina justement, qui est adhérent à ce mouvement agricole international, qui remet en cause justement l'industrialisation du vivant, l'utilisation. C'est ce qu'on veut faire aussi à notre petite échelle avec ce livre et l'appel contre l'élevage intensif, c'est-à-dire se dire aujourd'hui, on a 8 animaux sur 10 qui sont élevés dans des élevages intensifs. Cette industrialisation, on a avec des syndicats agricoles, avec des associations de consommateurs, la FCPE, par exemple, a aussi signé cet appel contre l'élevage intensif. On peut aujourd'hui se rassembler sur l'urgence du moment. Quoi. Et l'urgence du moment, elle est vraiment de sortir de ce modèle d'élevage-là. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est de arrêter de focaliser sur nos différences et sur cette question pour ou contre la viande, qui est une question, ok, elle est là, elle est importante pour nous, mais je vois quand on se retrouve dans des débats, souvent, on se retrouve face à des éleveurs qui font de l'élevage très extensif et qui, eux, doivent défendre la viande, alors, y compris celle qui est faite dans les pires conditions, et ils ne sont pas d'accord avec ça. Et puis, nous, et du coup, c'est une espèce de d'ornière qui est créée entre les deux, et nous, on veut que le débat, il passe ailleurs, quoi. L'urgence, aujourd'hui, c'est ce modèle d'élevage intensif, là, qu'il faut remettre en cause. Et, par exemple, on s'est retrouvé avec Hugo Desnoyers, qui est un boucher, qui a signé notre appel contre l'élevage intensif. On s'est retrouvé ensemble pour défendre cette idée sur des plateaux de télé. Et moi, je trouve que c'est ça, aujourd'hui, qu'on essayait de faire, et si on pouvait avoir cette intelligence de se retrouver, de construire un lobby citoyen, parce qu'aujourd'hui, la majorité des Français, si on regarde quand on fait des sondages d'opinion publique et tout ça, sont contre les élevages qui ne donnent pas un accès à l'extérieur aux animaux, par exemple. Et on a des 80-90%, quoi. Alors que, inversement, la production est faite comme ça en grande majorité. Donc, on pourrait vraiment arriver, je pense, si on est dans une vraie démocratie, à avoir cette opinion publique, enfin cette volonté qui s'exprime dans les choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Donc c'est ce qu'on veut essayer de construire, et d'autres mouvements le font aujourd'hui, construire un lobby citoyen pour peser aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité. On le voit encore avec l'affaire du siècle, etc. Il y a une soif aujourd'hui de changer de modèle, de développer des alternatives.
Une envie de se mobiliser, d'autres modèles, les gens ne savent pas toujours comment agir, mais
exactement,
on voit qu'il y a... Oui,
il faut qu'on arrive à se retrouver sur des problématiques communes, parce que si chacun part sur sa petite problématique, pas petite, mais sa problématique de son côté, et qu'on n'arrive pas à trouver des moyens de convergence comme ça, je pense qu'on n'arrivera pas à peser assez fort face aux intérêts économiques et eux sont présents dans les instances de pouvoir, dans les institutions, dans les conseils généraux,
départementaux. Les lobbies s'est organisé depuis longtemps, hein, c'est un vrai métier.
Et nous, il faut qu'on fasse, faut qu'on joue avec. On a un vrai pouvoir, quoi. En vrai, il faut qu'on se rende compte et qu'on arrête de jouer sur cette impuissance, parce que je pense qu'on a intégré cette impuissance aussi, totalement. Voilà. On pense que c'est les rendez-vous électoraux, et puis point barre, on attend les prochaines élections, et puis même moins en moins de gens votent, etc. Bon, il y a cette question du vote, pourquoi pas, mais on vote avec notre porte-monnaie, on peut faire énormément de choses, en fait. Et je pense qu'on le voit là, nous, aujourd'hui, avec notre campagne sur l'élevage des poules en cage ou des poulets, on arrive à avoir des engagements de l'agroalimentaire qui va complètement bouleverser le paysage français au niveau de l'alimentation aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, il y a la question politique, mais aussi faire pression sur ces hyper-consommateurs que sont l'industrie agroalimentaire et la grande distribution aujourd'hui. Là, on a des cartes à jouer.
Alors en France, près de 3,5 millions d'animaux, vous le disiez, sont tués chaque jour dans les abattoirs, avec une telle cadence qu'il a fallu, comme vous dites, renoncer à toute forme d'empathie. On se demande si les théories du care, là, les théories du soin, de porter attention aux vivants, ne devraient pas être un peu plus étendues au monde végétal et animal, parce que ce sont des concepts dont on entend beaucoup parler là, depuis quelques temps, mais finalement toujours pour l'espèce humaine, à ma connaissance. Je ne sais pas
ça s'étend un peu, oui, tout à fait.
Très bien.
Et
vous posez la question du coup de comment en sommes-nous arrivés à normaliser l'horreur, et vous proposez des réponses à cette question. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Comment on en est arrivé à normaliser l'horreur?
Ça s'est fait petit à petit. Il y a un documentaire de l'INRA qui s'appelle Sauver le bœuf, qui est sur des archives INA, que vous pouvez retrouver. Quand on voit justement le discours qu'il y a eu, c'est un discours très, on va dire, rationalisant, scientifique. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment les animaux dans les années 70 à l'INRA comme des machines. Simplement des machines où on a des intrants. On mesure ce qui sort, on mesure le rendement, il y a des déchets. Et vraiment, c'était vraiment les vaches à hublot, dont on a montré des images encore cette année, ça a été mis au point dans les années 70 pour essayer d'avoir des animaux qui aient un rendement le plus efficace possible. Donc on est passé à ce moment-là du fourrage pour les bovins à une alimentation très riche en maïs. Enfin, on a changé complètement leur alimentation parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus efficace pour transformer de l'énergie en produits, enfin en lait. Et on en est arrivé petit à petit. Je pense que pas grand monde a vu venir cette industrialisation, cette intensification de l'élevage. On a un peu laissé faire. Quand on regarde les discours à l'époque, ils étaient moins policés, par contre. Parce que les pratiques n'ont pas changé. Oui. Mais aujourd'hui, on met du bien-être animal à toutes les sauces. Hein. Tout le monde dit on fait du bien-être animal, tout ça. Mais c'est Alors là, pour le coup, c'est vraiment du greenwashing, pour le coup, qu'on peut appliquer sur la question animale. On communique beaucoup sur cette question-là, mais les pratiques n'ont pas changé. On a toujours des vaches à hublot, on cherche toujours à pousser, on continue à pousser le rendement des animaux. C'est-à-dire qu'on continue à faire des recherches pour qu'ils produisent encore, qu'ils fassent encore plus de lait, qu'ils grandissent encore plus vite et plus gros. Enfin, sur la question du gavage, par exemple, on était sur du gavage des oies au départ en 3 semaines. Aujourd'hui, on est sur du gavage flash de canard en 10 jours. Enfin, c'est toujours la même logique. Et ce qu'on propose, les pistes qu'on a, parce qu'il faut bien trouver des pistes pour sortir de tout ça, c'est d'essayer de sortir de ce modèle d'élevage intensif. Et faut essayer de le faire de façon d'accompagner déjà ceux qui dépendent de cette industrie-là, parce que voilà, ils sont là parce qu'on les a mis là. Hein. Dans les écoles agricoles, c'est ce qu'on a enseigné. Hein, ce modèle-là, il a été enseigné. Ouais. Et c'est celui qui domine aujourd'hui. Donc il faut déjà accompagner les gens. Ben, on voit qu'avec les subventions, il y a de l'argent. Il y a vraiment de l'argent pour sortir de ce modèle-là. Ça peut déjà être fait par... Je crois que d'ici 2022, la moitié des éleveurs de lapins, par exemple, partent à la retraite. Il y a une chose qui est simple, c'est-à-dire qu'on n'installe plus de nouvelles personnes dans cette filière. Déjà, ce serait énorme. C'est-à-dire que d'ici 2022, bah déjà, on aurait réglé la moitié du problème dans les élevages des filières cunicoles. Donc ça, arrêter d'installer des nouveaux élevages où les animaux ne sortent pas à l'extérieur, c'est une façon assez simple et soft de sortir de ce modèle d'élevage-là. Et il faut aussi... On ne peut pas sortir de l'élevage intensif si on ne végétalise pas notre alimentation. C'est évident, 3 millions d'animaux aujourd'hui terrestres hein, qui passent dans les abattoirs, c'est la cadence aujourd'hui en France. On ne peut pas tuer les animaux à cette cadence et que tout se passe bien, hein, qu'on les ait bien élevés, bien transportés, bien tués. Non, ce n'est pas possible, il ne faut pas se raconter des contes de fées. Donc il faut diminuer notre consommation de produits animaux. Aujourd'hui, l'assiette des Français, elle est constituée à plus de 60% par des protéines animales. Il faut
même en plus, on nous a vendu ça comme étant tellement nécessaire pour la santé, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que non seulement on peut vivre sans, mais qu'en plus,
c'est néfaste à notre santé.
Voilà, on est arrivé à une surconsommation qui fait que c'est néfaste.
Les maladies cardiovasculaires, je crois que c'est les cancers qui sont passés devant, mais c'était pendant longtemps la première source de mortalité, qui est très liée à notre mode de consommation. Hein. C'est pas que les produits animaux, c'est aussi le sucre et tout ça, mais c'est très lié à ça. Donc, il y a des problèmes de partage des ressources sur cette planète. Il y a 800 millions de personnes qui sont malades. Nutri entre 800 et 900 millions, et il y en a d'autres qui meurent d'être de trop mangés, quoi, de produits animaux essentiellement. Donc ce ratio-là qui est de 60% de produits animaux, aujourd'hui, les études scientifiques elles montrent que c'est l'inverse, il faudrait que ça soit constitué au moins à 60% de produits végétaux pour les questions environnementales, tout simplement. Donc il faut inverser cette vapeur, donc il faut éduquer les enfants aussi. Là, depuis le mois de novembre, il y a une obligation de proposer une alternative végétarienne au moins une fois par semaine.
Dans les cantines.
Et là, encore une fois, on voit les syndicats type FNSEA qui sont vent debout contre ce truc-là, quoi, de faire une fois par semaine un repas végétarien. Mais c'est pur délire, quoi. Donc, il faut végétaliser notre alimentation, donc développer la fréquence d'alimentation végétale dans la restauration scolaire. Par exemple, là, on va avoir des élections municipales. Et les mairies peuvent prendre cet engagement. Aujourd'hui, dans les cahiers des charges, ils ont le droit de mettre des exigences au niveau de l'origine des aliments. Ce qui, en plus, permettrait, parce qu'on voit souvent les filières alimentaires protester contre l'importation d'alimentation standard, de viande qui sont produites. Enfin, les pays exportent en fait l'élevage standard, quoi, le pire de ce qu'ils font. Donc, ce qui est importé en France et qui arrive dans les cantines scolaires, c'est il y a les produits français, mais il y a aussi les produits qui viennent d'autres pays, qui ont des produits dans des conditions très intensives. En exigeant, si un maire exige demain que l'approvisionnement des cantines scolaires se fasse plus par des élevages intensifs, mais par des élevages qui garantissent au moins l'accès à l'extérieur par les animaux, ça va automatiquement faire barrage à l'importation de produits intensifs d'autres pays. Donc on a aussi... Là, une défense de l'élevage en France, de personnes qui font de l'extension.
Ça demande aussi une volonté politique, parce qu'on sait qu'au niveau du coût, tout le monde ne peut pas suivre non plus. Il y a déjà des enfants qui ne peuvent pas manger à la cantine.
Le coût, on peut pallier, en fait, les produits animaux, c'est ce qui coûte le plus cher dans les restaurations collectives.
Après, toutes les aides qui vont sur le secteur de l'intensif, là, pourraient être reportées. Et on
paye deux fois, parce qu'il y a les subventions. Et après, il y a toutes les conséquences qu'on va payer. Donc, on paye. Ben, il y a tellement de choses, mais les algues vertes, par exemple, dont on doit dépenser énormément de sous pour nettoyer les plages en Bretagne, on sait aujourd'hui que c'est à cause de l'élevage intensif, tout ça. Et donc, ça, c'est des surcoûts qu'on va payer. Donc, c'est des budgets colossaux qui sont dépensés là-dedans. L'intensification, c'est aussi l'utilisation d'antibiotiques, qui est massif dans les élevages, qui sont donnés à titre préventif. C'est-à-dire que c'est pas une fois qu'on a vu que les animaux étaient malades qu'on va donner des antibiotiques. C'est une médecine par lot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez quelques animaux qui toussent dans un élevage, l'éleveur va vite donner les antibiotiques parce qu'il risque d'avoir trop de mortalité avant d'envoyer les animaux à l'abattoir. Et donc, on va donner des antibiotiques à tous les animaux de l'élevage, quoi. Donc, c'est une médecine par lot, préventive. Et donc aujourd'hui, cette utilisation abusive d'antibiotiques dans les élevages, c'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi. On sait très bien aujourd'hui que l'antibiorésistance
est un problème.
Et on va le payer très très cher, en plus, ce modèle-là d'élevage-là.
C'est lié de causalité. Dans le grand public, ça ne fait pas partie des choses qui sont dans toutes les têtes. Hein. On n'a pas forcément conscience, si on ne s'intéresse pas au sujet, on ne nous amène pas tellement l'information sur le fait que pourquoi on devient résistant aux antibiotiques, pourquoi il y a de tels problèmes de personnes qui en arrivent à mourir parce qu'on ne peut plus les soigner, parce que les médicaments ne font plus effet. Parce qu'on a développé de l'antibiorésistance, c'est pas tellement expliqué.
Non, c'est pas expliqué, et pourtant, on peut pas dire que c'est pas connu. Hein. Les autorités sanitaires connaissent ça très bien, l'OMS tire des signaux d'alerte sans arrêt. Le gouvernement ne peut pas ne pas savoir, ça c'est sûr, c'est impossible. Donc là aussi, il y a une vraie responsabilité qui aujourd'hui pèse aussi. Il devrait clairement agir, parce que autant en tant qu'individu, bon, on a les moyens de s'informer aujourd'hui, mais il y a tellement de sujets différents, à un moment donné on peut passer à côté de choses, quoi. Après, de toute façon, une démocratie saine, c'est une démocratie qui où il y a une départ de démocratie directe, mais aussi où il y a une presse qui aussi soit capable de sauver les bons sujets. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, en France, il y a une sacrée crise de la presse, des méthodes de d'investigation, de la presse qui est aux mains de grands groupes et qui fait que ça aide pas aussi à se poser des bonnes questions.
On voit plus, je trouve, de documentaires et de même dans le monde, il y a beaucoup plus d'articles qu'avant quand même sur les questions environnementales. Et on a moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'informations qu'avant sur ces problématiques. Enfin, faut dire que l'on arrive à un tel seuil de voilà où on sait qu'on est sur la ligne maintenant où toutes ces problématiques vont devenir irréversibles, que ce soit sur le changement climatique et le. Donc il y a un petit peu un sentiment d'urgence qui fait qu'il y a plus d'informations là-dessus. Maintenant, qui les lit, peut-être c'est toujours le problème. C'est les gens déjà acquis à la cause qui vont s'informer sur ces sujets-là, quoi.
Voilà. Et évidemment, sur Internet, les podcasts en font partie aussi. Il y a énormément de choses qui se font dans ce...
On a le temps, on peut prendre le temps de développer, quoi.
On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses, la manière de s'informer aujourd'hui. Après, il faut arriver à transformer ça concrètement, quoi. Il faut qu'il y ait des solutions, des alternatives, parce qu'il suffit pas. On peut avoir une connaissance un peu théorique des choses.
Sinon, il faut que chaque citoyen se mette en mouvement aussi.
Et ça, c'est la question politique, c'est la question de du mode de consommation. Et donc, c'est individuellement, on a notre part. Chacun doit prendre ses responsabilités, mais il y a aussi justement l'agroalimentaire qui doit prendre sa part. Hein, il est responsable, parce qu'on sait très bien que tout ça, il y a des agences qui dépensent des trésors d'énergie pour nous faire croire que c'était le produit qu'il faut manger, parce que on n'est que des êtres humains, pas des êtres rationnels, on a beaucoup d'irrationalité. Donc et tout ça, c'est connu par les gens qui veulent vendre des choses. Oui. Donc ils tirent sur toutes les fossiles possibles pour que nous, on tombe dans le panneau de tout ça.
Oui. Mais d'autant plus qu'il faut aussi du temps pour s'informer. Hein. C'est vrai que c'est pas non plus à la portée de... Quand il faut bosser comme des dingues et rentrer, s'occuper des enfants et avoir des problèmes de famille, de travail, de tout ce qui peut tomber sur la tête. Alors, concernant l'impact de l'élevage intensif sur ce que vous appelez le cataclysme planétaire, vous mentionnez qu'il est responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine, de 25% de l'acidification des sols et de 63% de la déforestation de l'Amazonie.
C'est pas nous qui parlons de cataclysme et du rôle de l'agriculture, c'est une étude dans Nature qui est parue l'année dernière et qui est une des plus grosses études sur plusieurs milliers d'exploitations qui a fait le bilan justement de l'impact de notre consommation et qui est arrivé à ces chiffres-là qui sont effectivement vertigineux.
D'accord. Et puis donc il y a, vous venez d'en parler, le problème des algues vertes sur lequel vous écrivez. Par ailleurs, l'agriculture intensive joue un rôle prépondérant dans la prolifération des marées vertes. En effet, le développement des algues vertes est étroitement lié à l'épandage de lisier, dont des résidus se retrouvent dans l'eau sous forme de nitrate. Le lisier, les Bretons ne savent plus quoi en faire. En Bretagne, les animaux d'élevage produisent à eux seuls autant de déjections que 50 millions de personnes. Toxiques, les algues vertes émettent du méthane, un gaz responsable de l'effet de serre. Près de 50 000 tonnes d'algues vertes toxiques doivent être ramassées chaque année sur les côtes bretonnes. les marées vertes sont un frein certain à l'activité touristique de la région et engendrent une perte estimée à plus d'un milliard d'euros par an. Tout ça, c'est extrait de votre livre, hein, quand la fin ne justifie plus les moyens. Et vous dites, devinez qui paie la facture. Alors, on en est où avec ces algues vertes? Parce que depuis le temps qu'on entend des chevaux qui meurent, des chiens qui meurent, des humains qui ont des malaises, donc maintenant, on a identifié de quoi ça venait.
En tout cas, quand on va en Bretagne au début de l'été, etc., bah, y a des plages qui sont fermées, qui sont dangereuses, qui sont interdites.
Toujours.
Donc ça ne fait que progresser et il n'y a aucune... aujourd'hui, bah, on ramasse les algues vertes, on les stocke et on paye l'addition. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui parce que c'est juste un pansement quoi, sur une jambe de bois, de ramasser les algues vertes. Le problème, il est à la source, il est beaucoup plus loin.
Voilà, c'est ça, il faut travailler sur les causes. Là,
j'ai pas entendu un programme aujourd'hui de réduction du nombre d'élevages porcins en Bretagne. Même au contraire, on a tendance, en fait, les gouvernements qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont favorisé l'installation d'élevage intensif. C'est fou, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des seuils à partir duquel il faut faire une enquête publique, des choses comme ça. Et les gouvernements successifs ont relevé ces seuils, quoi, pour faciliter l'installation des élevages. Donc on n'est pas dans le sens de réduction, on est dans le sens inverse, quoi. Donc, c'est une aberration totale.
Alors, ce qui semble paradoxal, c'est que tout ce système, en fait, a été mis en place, donc on le disait, pour répondre à la faim, que ce soit après la Grande Dépression aux États-Unis ou après la Seconde Guerre mondiale en France, ou plus tard en Inde avec la Révolution verte. Je revoyais un article là de 2011 qui disait, en 2011 donc, sur ces 15 dernières années, le surendettement en Inde a poussé près de 250 000 paysans au suicide. Et quand on voit qu'en France aussi, nos agriculteurs en sont à ce... Je crois que c'est un suicide tous les deux.
Oui, c'est trois fois plus de suicides que dans les autres professions. Bon.
Et en fait, ce système qui a été mis sur pied pour répondre à la faim aujourd'hui, donc affame des populations, et vous dites, or pour l'heure, des pays dont la population souffre de malnutrition font pousser des céréales et des légumineuses destinées à engraisser des animaux dans d'autres pays au lieu de les cultiver pour nourrir leurs habitants. Une situation aberrante dénoncée par exemple par le journaliste et écrivain argentin Martin Caparros dans son essai « La faim ». Il s'offusque avec raison que dans son pays, troisième producteur de soja au monde, 8% des enfants soient dénutris de façon chronique, car le soja argentin n'est pas consommé sur place, il est majoritairement exporté vers la Chine, où il sert à engraisser des poissons et des cochons. Depuis les années 2000, la demande asiatique et particulièrement chinoise en graines de soja explose. La Chine en importe désormais 70 millions de tonnes par an. Donc on sait que ce système pervers provoque des accaparements de terres pour satisfaire tous ses besoins, que des petits paysans, des familles, des autochtones sont chassés de leurs terres violemment quand ils ne sont pas tués, comme au Brésil depuis quelque temps. Vous citez d'ailleurs un rapport de l'ONU de 2017 qui estime que l'accaparement des terres constitue déjà une plus grande cause de misère et de violence que les guerres. 800 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde, chiffre en augmentation selon l'OMS, rapport de 2018. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, selon vous qui êtes sur le terrain, arrêter cette machine infernale?
Je pense que c'est aujourd'hui, enfin, le plus gros levier pour tout ça, pour cette question des partages de ressources, de la graine du pauvre qui nourrit la vache du riche, c'est vraiment une remise en cause de nos modes d'alimentation. Je pense qu'encore dernièrement, le dernier rapport du GIEC qui s'intéressait à la question des terres le soulignait. Et il conclut pas tout à fait, mais ils mettent un graphique où ils montrent justement en fonction de notre régime alimentaire, quels sont les impacts de notre régime alimentaire sur le partage des terres et tous les autres de problèmes sur le réchauffement climatique, etc. Le levier le plus efficace, c'est l'alimentation. Quand nous, on a, au niveau, c'est pour la COP21, au départ, on avait fait un site internet pour justement dire, en France, on parle alors, genre, il faut éteindre les lumières en partant, couper l'eau du robinet, etc. Enfin, des petits gestes comme ça, alors que notre plus gros levier, c'est notre consommation alimentaire. Et là, silence radio sur toute la ligne, quoi. C'est parce qu'on défend les intérêts, donc on ne veut pas remettre en cause notre mode de consommation alimentaire. Et le problème aujourd'hui, c'est que les pays émergents, comme on dit, en tout cas en Asie, il y a une classe, en Chine, il y a une classe moyenne, aujourd'hui qui est de plus en plus forte, puissante et nombreuse, qui veut consommer comme on consomme dans les pays occidentaux, où là, commence à avoir une érosion de notre consommation de produits animaux, mais en tout cas, il y a une explosion de la consommation de produits animaux au niveau mondial, et ça fait une pression, effectivement, sur une pression sur les terres, et on pourrait parler de la question de l'eau, et voilà, et d'autres sujets comme ça. Et du coup, si on ne réalise pas, et peut-être qu'on va le réaliser, enfin, si on ne le fait pas de façon consciente, de toute façon, à un moment donné, ça va avoir des limites, cette pression sur les matières premières qu'il y a. Effectivement, ça, c'est des guerres, c'est des conflits. Je pense que la seule solution, c'est de changer notre mode d'alimentation et de tout faire. Et la Chine a pris d'ailleurs conscience de ce problème. Le gouvernement chinois, qui consomme quand même deux fois moins de viande qu'ici, hein, dans les pays occidentaux, donc on peut le montrer du doigt, mais ici, le problème est encore plus gros. Alors, on a une population qui est moins importante qu'en Chine, mais... Donc c'est une histoire d'échelle, mais en proportion, ils mangent deux fois moins de viande que nous. Et ils ont décidé justement de diminuer leur consommation de produits animaux. Ils ont pris conscience de ça. Et je pense que c'est vraiment, je vois pas d'autre solution que de remettre en cause notre modèle et de végétaliser notre alimentation. Il y en a pas un. Et ça va jouer sur tous les leviers, quoi. Vraiment sur le partage des ressources, sur la condition animale, sur les questions environnementales, sur tout un tas d'éléments, parce que les animaux aujourd'hui qu'on les fait naître, quoi. C'est pas l'histoire d'ouvrir les portes des élevages, mais c'est d'arrêter de faire naître des animaux aujourd'hui.
Dans de telles proportions, oui.
Dans de telles proportions.
Je pense que même sans être vegan ou sans être pour qu'on ne fasse plus du tout d'élevage, on peut se retrouver sur le fait de reconnaître que l'élevage intensif est...
Ah oui, et qu'on a une surconsommation de produits animaux, qui est récente hein, dans l'histoire, même l'histoire occidentale, de manger de la viande comme on mange aujourd'hui, c'était pas question. Enfin, oui. Nos grands-parents mangeaient une ou deux fois de viande, enfin ça dépend où on habitait déjà et tout ça, mais c'était le week-end, le dimanche, etc. C'était pas...
C'était pas midi et soir tous les jours.
C'est ça, on a l'impression que la situation, le régime alimentaire d'aujourd'hui trouve ses racines très profondes dans l'histoire de l'humanité, etc. Non, c'est quelque chose de récent, donc on peut tout à fait avoir une politique, un encouragement, une éducation qui aille tout à fait dans l'inverse. Et en une génération, on peut changer des choses. On voit bien à quel point les choses s'imposent aujourd'hui. De toute façon, il y a une disruption, comme on dit, dans plein de choses, quoi, et sur la question de l'alimentation. Et on voit d'ailleurs qu'il y a ce virage, l'industrie en a conscience, quoi. Et vous avez des fonds d'investissement ou des agences de notation qui disent, qui déconseillent d'investir dans la viande aujourd'hui. Parce qu'il y a une prise de conscience, je pense, qui est faite, et que là, c'est un marché énorme, alors avec tous les travers.
Une prise de conscience par rapport
économique.
Ah oui, c'est ça.
L'impact, hein.
Oui, c'est pas une question éthique de prise de conscience vraiment du problème sur la santé ou l'environnement. C'est une prise de conscience du fait que les consommateurs vont se détourner et que donc là, ils
vont se détourner,
mieux faire de
qu'il y a des problèmes, qu'il y a une pression. Voilà, c'est ça.
Alors, donc vous écrivez aussi que les abattoirs, ça j'étais étonnée de lire ça, se sont inscrits très tôt dans l'histoire de l'industrialisation et ont même servi d'exemple pour le secteur automobile. Mm-hmm. Vous dites, dans l'histoire de l'industrialisation, celle des abattoirs fut précoce. Ceux de Chicago ouvrirent en 1865 et en 1900, plus de 80% de la viande des États-Unis y était produite. Un boom exceptionnel qui a même inspiré les premières chaînes de montage industriel. En effet, c'est en visitant les abattoirs de Chicago dans sa jeunesse que Henry Ford eut l'idée du travail à la chaîne.
Mmh, tout à fait.
C'est vraiment étonnant comme...
Oui, c'est tout ça. C'est le travail notamment de Charles Patterson, Eternel Treblinka, qui est un historien. Et voilà, c'est effectivement très connu que voilà, l'industrialisation a commencé. D'ailleurs, les chaînes d'abattage dans les abattoirs, le travail à la chaîne, voilà, c'est au départ à Chicago, effectivement, que ça a commencé.
Alors, vous avez fait une proposition de 15 mesures, L214, pour concrétiser cette sortie. Et c'en est où ?
Aujourd'hui, en France, on en est un peu au balbutiement au niveau politique. Mmh. Alors, là où on arrive à avoir le plus d'avancées le plus rapidement possible, c'est avec l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on a réussi en un ou deux ans à convaincre plus de 150 gros acteurs de l'agroalimentaire à, par exemple, ne plus s'approvisionner avec des œufs qui sont issus d'élevage en cage, et on est en train de faire le même travail sur les poulets, donc ça va. On a les moyens aujourd'hui de faire prendre conscience là et d'avoir une pression suffisante sur ce monde-là. Au niveau politique, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mmh. On a un lobby qui s'applique sur les députés, les sénateurs, qui est difficile aujourd'hui de changer ça. On a une représentation de la ruralité, et souvent la ruralité, c'est les notables, c'est justement les chambres d'agriculture, voilà, toutes ces syndicats qui sont installés, ces institutions. Et du coup, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment un clientélisme au niveau des députés et des sénateurs aujourd'hui. Mais je ne doute pas que dans quelques années, ça va changer. On a vu, Bah d'ailleurs, avec les élections européennes, là, il y a le parti animaliste que c'était présenté, qui a fait plus de 2%, plus que des partis traditionnels. Et je pense
qu'il y a la surprise générale.
Oui,
quand même,
avec à peu près aucune exposition médiatique, puisqu'on n'ouvrait pas l'antenne, on leur ouvrait pas l'antenne, etc. Donc je pense que ça a été repéré par les politiques aujourd'hui. Et que ça va changer. Et là, par exemple, nous, ces 15 mesures-là, c'est une proposition qu'on a, et on essaie de voir comment ces propositions-là, par qui elles peuvent être défendues, portées. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu le débat sur les états généraux sur l'alimentation, la question environnementale et la question du bien-être animal étaient les deux sujets qui ont fait le plus débat. Et on a eu plus de 50 députés, je crois, qui ont soutenu un amendement pour l'interdiction des cages pour les poules pondeuses, qui n'est pas passé parce que le gouvernement attendait les instructions de l'interprofession des œufs pour avancer. Donc, mais il y a eu quand même cet article qui a été voté pour végétaliser, avoir cette option végétarienne dans les cantines. Donc je pense qu'on en est au début et que, comme pour quand on a commencé à faire campagne contre les cages pour les poules pondeuses, au départ on a fait pendant plusieurs années sans avoir aucun résultat. Et on voyait d'autres pays qui avaient des résultats, on se demandait mais comment ils font, on est vraiment nuls. Et puis petit à petit on a ramassé les fruits en fait, de ce travail. C'est un travail, il faut de pédagogie qui est assez long. Et je pense qu'au niveau politique, d'ici quelques années, à mon avis, les choses vont s'inverser. Et ça va aller très, très vite à ce moment-là. Il va y avoir un basculement. Parce que la progression, on voit dans les études sociologiques, elle n'est pas linéaire hein, pour les changements de comportement. Oui. Quand il y a 10% de la population qui bascule, voilà, on a quelque chose qui va très, très vite après. Parce qu'il y a une pression, en attendant, il y a des verrous à faire sauter. Il y a des intérêts privés qui luttent, qui réagissent. Il y a des forces de réaction qui sont très, très fortes en face de nous et qui freinent en fait les choses progressives qui pourraient, les solutions, les alternatives qui pourraient débouler aujourd'hui.
Alors dans la partie « Comment en sommes-nous arrivés là ?», vous analysez les causes de la distance qui existe maintenant entre le consommateur et l'origine du produit qui arrive dans son assiette. On sait, ça avait fait beaucoup d'effet il y a quelques années, que pas mal d'enfants ne savent pas à quoi ressemblent les animaux qui arrivent en portions dans leur assiette sur leur table. Mais cette distance pour les adultes, elle existe aussi, puisqu'on s'aperçoit, surtout en lisant votre livre, qu'il y a un véritable mur qui lui cache les conditions d'élevage, de transport et d'abattage de ce qu'il consomme, de ce que nous consommons. Et pour cause, puisque on comprend bien que s'il les connaissait, peut-être que ça freinerait, c'est votre travail, en tout cas ça fait prendre conscience et ça remet en question un petit peu notre attitude en tant que consommateur, jusqu'où on cautionne une fois que l'on connaît ces conditions. J'ai été assez étonnée de lire ce que vous décrivez par rapport à l'étiquetage. Vous dites que les lobbies ont peur du pouvoir des consommateurs de dire non. C'est pourquoi le législateur, sous l'influence des filières et des acteurs de l'agroalimentaire, s'est jusqu'à présent toujours refusé à imposer l'étiquetage obligatoire sur les modes d'élevage et d'abattage. Et pourtant, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression qu'il y avait eu des progrès dans l'étiquetage, on voit souvent marqué « élevé en plein air » ou des labels de ce type, que l'on croit un peu naïvement, et vous expliquez en quoi les étiquettes qui sont censées rassurer le consommateur ne sont pas très honnêtes, et sont souvent des entourloupes marketing.
On a beaucoup d'industries aujourd'hui qui fait, je sais pas, la nouvelle agriculture, voilà, qui dit élevé sans antibiotiques, sans OGM, tout ça. Ben, sans antibiotiques, il y a une petite étoile, et puis c'est à partir de l'engraissement. Enfin voilà, donc vous avez plein d'entourloupes comme ça. Et évidemment, ceux qui écrivent plein air et tout ça, c'est que en fait, c'est le problème, c'est quand c'est pas écrit, vous pouvez être sûr que c'est de l'élevage intensif et de l'élevage standard. Et puis il y a plein de produits, ben, sur les œufs, c'est le seul produits pour les œufs coquilles qui sont vendus dans les boîtes où il y a une obligation d'étiquetage. Bon, c'est écrit tout petit tout ça, mais c'est quand même écrit. Mais dès que vous avez des œufs qui sont utilisés dans les préparations, qui sont dans les œufs transformés, voilà, tous ces œufs entre guillemets cachés, là, il n'y a plus du tout d'obligation d'étiquetage. Et sur tous les autres produits, il n'y a aucune obligation.
Des œufs bio, par exemple, élevés en plein air, de poules élevées en plein air.
Bio, c'est forcément en plein air, ouais.
Voilà. Ouais. Donc là, on peut y croire ou pas ?
Oui, on peut y croire, sauf éventuellement.
Rassurez-nous un peu.
Il y a la DGCCRF, il y a toujours un petit pourcentage de tromperie, mais là, c'est pas tellement la question.
Mais hein, ça signifie bien que ces poules-là sont en plein air.
Oui. Par exemple, aujourd'hui, que ce soit le bio ou le label rouge, ce sont deux labels qui sont au-dessus du standard, clairement, qui généralement, bon, à quelques exceptions, par exemple pour les vaches porcins, ce n'est pas le cas, mais normalement laissent accès au plein air aux animaux. Donc je ne dis pas que c'est idyllique, mais c'est mieux que l'élevage standard, voilà, sur ces deux, sur le bio et le label rouge. Mais tout le reste a tendance, même pour ce que vous, quand vous avez IGP, origine protégée, ou choses comme ça, il n'y a pas de. La question du bien-être animal n'est pas prise en compte là-dedans. Vous pouvez tout à fait avoir de l'élevage intensif. Qui soit IGP. Là, on va encore diffuser une nouvelle enquête sur du foie gras IGP. Les canards sont gavés dans des salles collectives à la pompe pneumatique, dans une salle qui a 1000 canards. C'est en Dordogne, voilà. Et ça, c'est aussi label IGP, quoi. Donc, il faut. C'est vrai, il y a une foule de mentions qui sont sur les emballages. Et encore une fois, le gouvernement a possibilité de mettre un étiquetage clair et net, mais non, c'est. Il y a des associations en ce moment qui font des tentatives pour essayer d'encourager justement la grande distribution, mais c'est des démarches volontaires. Alors tant mieux si la grande distribution les adopte, mais il n'y a pas le gouvernement pourrait aujourd'hui imposer. On a bien vu avec le Nutri-Score et tout ça, tous les problèmes qu'il y a quand on a des lobbies en face, juste pour quelque chose qui devrait être vraiment, mais tellement évident et naturel qu'il y ait une indication claire et nette pour le consommateur qui veut faire un choix éclairé. Tandis que là, on peut passer devant un rayon et se poser des questions. Voilà, c'est pas pour ça qu'on va. Et puis, il y a une.
Mais on comprend que ça résiste, parce que quand on voit les quelques applications qui se sont lancées sur le secteur et qui réussissent.
Il y a une vraie demande.
Finalement, à ce que des gens.
Une transparence, une information.
Parce qu'avant, il y avait les histoires de boycott. Mais bon, le boycott, c'est compliqué à mettre en place. Et comme disait Colline Serrault, il faut aussi qu'il y ait des alternatives de proposer et tout ça. Et les applications, on s'aperçoit que les gens, ils vont se reporter sur un autre produit, mais c'est quand même une forme de boycott aussi, puisque donc au final, il y a un manque à gagner pour le producteur, qui fait que visiblement, au bout d'un certain temps, ça finit par influencer ces producteurs qui du coup changent la composition
Si c'est bouché au niveau politique, et bon, on essaye, il faut continuer d'essayer, parce que je dis pas, il y a des gens qui sont très mobilisés en politique, ils sont souvent minoritaires, mais il y a des gens qui se battent quoi au niveau politique. Voilà, ça ne peut pas reprocher ça quoi. Donc je sais pas moi qui vais mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a des vraies choses. Mais si ça reste quand même bouché aujourd'hui, faut l'admettre. Donc il y a d'autres chemins possibles, il y a d'autres, il faut tout essayer, il faut essayer d'agir avec intelligence, d'agir avec ici et maintenant, relever les manches, ne pas être dans du tout ou rien. Il y a moyen de progresser. Enfin, faut être dans le pragmatisme, dans la bienveillance, le pragmatisme, ça c'est très important. Et je pense que aujourd'hui on voit que les consommateurs et les hyper-consommateurs que sont la restauration collective, la grande distribution, ont un rôle hyper important. Et si les produits ne sont pas vendus, achetés, si les mairies exigent aujourd'hui que les produits proviennent de tel et tel type d'élevage, par tel et tel mode d'élevage, forcément la filière elle va devoir derrière s'adapter. Et puis là, on pourra. Enfin, quelque part, c'est cette sacro-sainte règle du marché, c'est leur mode d'organisation, et donc il faudra l'accepter aussi dans ce sens-là. Si les consommateurs ne veulent plus tel et tel produit, il faudra arrêter de les produire. Donc on a une vraie responsabilité.
Alors il y a eu dans les choses positives, donc vos vidéos qui ont fait sensation avec les choses absolument horribles mais qui se déroulent quotidiennement dans les abattoirs. Il y a eu suite à cela, depuis 10 ans que vous êtes sur ce créneau et ces engagements, des résultats concrets. Vous en avez un peu parlé par rapport aux cantines, mais il y a eu d'autres choses avant, des aménagements de loi.
Notamment, il y a des choses en ce moment qui sortent. Il y a, par exemple, des alternatives. Les lois, pas beaucoup, mais au moins dans la pratique, il y a on avait diffusé il y a quelques temps des images de broyage des poussins,
voilà,
par exemple.
Voilà, je pensais à ça, justement.
Voilà, on a une alternative aujourd'hui qui est en train d'arriver, qui s'est développée en Allemagne, une entreprise s'appelle Select, qui permet d'identifier dans l'œuf.
Pour expliquer, des poussins qui, tous les jours, donc, se retrouvent par milliers,
des millions chaque année en France, plus de 50 millions sur la filière ponte, par exemple, et plus sur la filière foie gras aussi, parce que au foie gras, on gaffe que les canards mâles aujourd'hui, donc toutes les femelles sont sexées, sont triées dans les couvoirs et sont éliminées, broyées ou gazées. Et donc là, il y a un procédé qui consiste à identifier dans l'œuf
si l'oiseau futur va être mâle ou femelle, et ça permet au moins de détruire l'œuf plutôt que détruire un caneton le jour de sa naissance. Ouais. Donc, ce qui est quand même une sacrée avancée. Donc ça a été développé en Allemagne, et ça y est, il y a des pouvoirs qui commencent à l'utiliser, et ça va sûrement arriver dans quelques années très rapidement en France. Après, on a d'autres choses, des engagements aujourd'hui à ne plus s'approvisionner. Alors, il y a la question des œufs pour les cages. Donc ça, d'ici 2025, la plupart des supermarchés en France sont engagés à ne plus utiliser d'œufs qui sont issus d'élevage en batterie. Donc je pense que ça va siffler la fin des cages en France, je pense d'ici 2025. Et là, une fois que le pourcentage d'œufs produits en France aura assez décliné en élevage en cage, on pourra espérer avoir une loi qui va verrouiller cette idée-là. Mais aujourd'hui, on a une même démarche, alors qui est aujourd'hui quelque chose d'hyper positif, c'est au niveau de l'élevage des poulets de chair, on arrive aujourd'hui à avoir énormément, enfin des victoires dont on n'espérait pas les avoir aussi rapidement. Pareil, de l'agroalimentaire qui s'engage à diminuer les densités d'élevage à l'intérieur des élevages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un élevage de poulets, la réglementation oblige à rester en dessous de 42 kg par mètre carré. C'est comme ça qu'on parle, la réglementation. Ça fait à peu près 20-21 poulets sur un mètre carré, donc c'est une promiscuité assez intense. Sur un bâtiment, vous pouvez avoir 30 000 poulets qui sont entassés dans ce bâtiment avec un seul éleveur. Et là, avec cette démarche-là, les densités vont baisser à 30 kg par mètre carré, il va y avoir de la lumière. Donc c'est pas... C'est une réorganisation, évidemment, c'est pas le bout. Hein. On ne se satisfait pas de ça, mais on demande aussi à ce qu'il y ait un accès au plein air pour au moins 20% des produits qui sont vendus dans les supermarchés. Donc l'idée, c'est de trouver une marge qui ne soit pas trop haute pour que les supermarchés acceptent de le faire ce pas. Parce que si elle est trop haute, on ne va pas avoir.
Il faut trouver la voie du milieu.
Il faut trouver la voie qui permet de progresser. Quoi. Voilà, c'est une démarche des petits pas, mais voilà, on n'a pas de baguette magique, donc on ne peut pas. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on a. Ce que je vous dis, c'est qu'on a des engagements qui tombent les uns derrière les autres. Il n'y a pas une semaine, on n'a pas un engagement. Et ça donne beaucoup d'espoir sur l'avenir. Quoi. On peut aujourd'hui faire bouger les lignes, vraiment.
Et il y a eu, c'était récemment, je crois, vous aviez lancé un appel avec 200 personnalités, ONG.
C'est donc à l'issue, enfin un accompagnement où le livre accompagnait un appel, qui est Stop Élevage Intensif, justement. Et on a, à peu près 200 personnalités qui l'ont signé, plus là on doit être pas loin de 100 000, plus de 100 000 personnes qui ont signé cet appel-là. C'est justement l'idée de sortir du modèle d'élevage intensif. Et on voit qu'il y a une vraie mobilisation qui s'organise, qu'il faut qu'elle se transforme. Mais aujourd'hui, la question animale, c'est une question qui est très concernante. En tout cas, on voit que quand des sites internet d'information écrivent un article sur ce sujet-là, qu'ils ont le top 100, vous savez, ou le top 10 des articles les plus lus la veille, des articles sur les animaux arrivent tout le temps en premier. C'est tout le temps. C'est sur les articles de Libé, par exemple, qui fait ça, arrive tout le temps au début. Donc, je pense qu'il y a des sujets qui sont hyper concernants. C'est l'alimentation, on y comprend quelque chose. Et il y a un tel gap écart entre les pratiques et ce qu'on aimerait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, sur la question animale, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter les animaux sans nécessité et qu'on ne doit pas les tuer, les maltraiter sans nécessité. Donc, ça, c'est gagné quelque part. L'idée, c'est de faire comment on arrive à se sortir de ce modèle-là. C'est gagné au niveau idéologique. Donc, c'est vraiment comment on fait pour dépasser ses intérêts privés et changer de mettre la barre vers une autre direction.
Alors, sur So Sweet Planet, je vais mettre les liens vers vos différents sites, parce qu'il y a l214.com et puis ensuite, il y a une déclinaison selon les thèmes de plusieurs sites qui sont tous très intéressants. Vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle il y a donc toutes ces fameuses vidéos. Mais il y a pas que les vidéos... horrible, je ne vois pas d'autre mot, je suis désolée pour qualifier vos vidéos, c'est pas vos vidéos, c'est les sujets qui sont horribles, mais il faut quand même en voir deux ou trois pour se faire une idée de cette horreur l'on cautionne quand on va acheter sa viande.
Faire une soirée.
Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment justement sur les résultats que vous avez eus, sur il y a des rubriques de playlists en fait ensuite qui sont sur la chaîne YouTube qui sont très intéressantes. Il y a le site stopgavage.com Com, qui est dédié donc au sort des canards et des oies utilisés pour la production de foie gras, de magret et de confit. Il y a Vegoresto, qui référence les restaurants qui proposent une alternative 100% végétale à leur carte. Donc ça, une bonne idée pour tous ceux qui souhaitent...
Plus de 1000 restos qui sont chartés, effectivement. Il faut qu'on puisse avoir cette alternative aujourd'hui, qui soit disponible.
C'est vrai que ça demande des efforts de faire cette transition. Moi, je le vois dans ma vie quotidienne, des efforts de changement d'habitude.
C'est des habitudes, voilà, exactement. Voilà. C'est des habitudes qu'il faut changer, parce qu'une fois qu'elles sont changées, c'est simple.
Et puis, il y a le site Vegan Pratique. Je conseille vraiment Vegan Pratique, parce que là, le site est super bien fait. Il y a des informations nutritionnelles pour ceux qui veulent limiter ou supprimer la viande et le poisson, parce que les deux sont à la même, on est dans les mêmes problématiques. Et des conseils pratiques et des recettes véganes et des astuces pour découvrir tous les secrets d'une... Et c'est vrai que les recettes donnent envie, parce que je suis déjà allée, moi, sur des sites... Cette végétarienne, ça ne donne pas toujours envie. Mmh. Ou l'autre problème, c'est que c'est souvent très compliqué, très long à préparer. Quoi. Mmh. Il nous manque la moitié des ingrédients.
On essaye de faire des rubriques différentes. Il y a sur Vegan Pratique, il y a un Veggie Challenge qui est justement quand on s'y inscrit. Évidemment, toutes ces ressources sont à disposition librement. Et on s'y inscrit et on reçoit pendant 21 jours un email différent, justement avec un menu, avec des conseils pratiques. Il y a la question de la nutrition, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc au départ, on est un peu inquiet. Est-ce que je vais avoir... il va me manquer des choses, ou c'est que je peux trouver mon calcium
par rapport aux carences,
Par exemple, le calcium, il y a tellement eu de matraquage par l'industrie laitière qu'on a l'impression que le calcium, c'est du lait, quoi. Et calcium égale lait, alors que le calcium, il est dans les légumineuses, dans les feuilles à légumes vertes, etc. Donc même y compris dans l'eau, et avec des proportions qui me suffisent tout à fait pour vivre en très bonne santé. Il y a quelques... donc c'est aussi se rassurer, de voir aussi des positions scientifiques et des conseils pratiques, justement, pour comment essayer de changer une habitude psychologiquement, comment on fait pour ça, quoi. Mais c'est un site... On essaye d'apporter des solutions aussi. Donc, effectivement, on montre l'information, comment ça se place. Et derrière, on essaye aussi d'accompagner les gens qui veulent végétaliser un peu leur alimentation, ou alors qui veulent s'engager aussi. Parce que c'est très important, c'est une question politique, la question de l'alimentation. Et on a, par exemple, un site qui s'appelle Politique Animaux, où là, on va référencer toutes les prises de position. On essaie de faire le plus exhaustif possible des politiques pour visibiliser.
Des petits points rouges, des petits points verts.
Voilà, on a mis un algorithme, on essaie de faire ça le plus sérieusement possible. On a un site qui s'appelle, un engagement qui s'appelle Les Actions Express pour les Animaux, où là, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, qui peuvent s'inscrire, et là on propose des actions régulièrement, justement pour essayer de se fédérer sur un point particulier, pour qu'on puisse concentrer le tir laser, j'ai envie de dire, sur une cible qui permet d'avancer un peu plus loin et qu'on n'aille pas disperser.
Le focus sur une
problématique. Et ça, je pense que tout type d'ONG, à un moment donné, a tout intérêt à développer, à faciliter l'engagement, en fait, aussi. Oui. On a des outils, aujourd'hui, et on a notre vie, on a peu de temps, aujourd'hui, dans nos vies, entre le transport et tous nos soucis dans nos vies. Et il faut aussi que nos opinions, on puisse les exprimer assez facilement. Et on a des outils pour le faire, aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément de descendre dans la rue, de manifester sur le week-end où on est fatigué ou je ne sais quoi. Et il faut avoir peut-être l'âme un peu militante. Et puis, il y a plein de façons de militer. Et là, avec ces actions express, on peut... écrire à une entreprise, partager un contenu, on propose beaucoup de choses qui sont très faciles. Du coup, c'est très facile aujourd'hui de s'impliquer. Je pense que ça aussi, c'est une façon de se compter quelque part. Parce qu'on sait, les chasseurs sont très organisés pour faire remonter leurs revendications. Pourtant, ils sont une ultra minorité dans la société. Et ce qu'il faut qu'on arrive, nous, c'est à faire la même chose, c'est-à-dire à montrer qu'on est aussi du monde et qu'on puisse aussi se rassembler, quoi.
Sébastien Arsac, merci.
Merci beaucoup, c'est très agréable.
Bonne continuation.
Merci.
Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.